13h30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel et à Dakar. Afrique Midi, bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à toutes et à tous. Une délégation du Fonds monétaire international en visite au Sénégal, le FMI, qui confirme les conclusions de la Cour des comptes sur l'ampleur de la dette cachée du temps de l'ancien président Macky Sall. Elle atteint cette dette cachée 7 milliards de dollars. Les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est élargissent leur équipe de facilitation pour la paix dans l'Est du Congo. L'ancien président sud-africain Ralema Motlanthe et les anciennes présidentes centrafricaines Catherine Samba-Panza et éthiopienne Saleh Work Zewde rejoignent Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo. Et puis l'ONU-SIDA s'inquiète des conséquences de l'interruption du soutien financier des États-Unis et de leur participation à l'aide internationale. Sans cette aide, le nombre de morts du SIDA pourrait décupler dans les 4 ans qui viennent. Le docteur Fodé Simaga, directeur des programmes à l'ONU-SIDA, est notre invité. Le chef de la mission envoyée par le FMI au Sénégal, Edouard Gemayel, doit rencontrer cet après-midi le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Hier, le Fonds monétaire international a confirmé les conclusions du rapport de la Cour des comptes qui révélait il y a un mois une dette publique bien supérieure à ce qui avait été déclaré par le gouvernement précédent. Léa Lisa Westerhoff, on vous retrouve en direct de Dakar. Le FMI déclare qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de 7 milliards de dollars environ a été cachée par l'administration Macky Sall.
Oui, il y a eu une décision très consciente, hein, dit le chef de la mission du FMI au Sénégal, Edouard Gemayel, de sous-estimer la dette du Sénégal pendant les 5 dernières années pour pouvoir s'endetter plus, dit-il, et à des taux d'intérêt plus favorables, entre autres. Quoi qu'il en soit, le FMI confirme la dissimulation délibérée de l'administration précédente et le montant de la dette cachée, 7 milliards de dollars environ. Ce chiffre correspond, hein, à ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes, mais différemment. C'est en réalité la différence entre les deux estimations de la dette publique, celle déclarée sous l'administration Macky Sall de plus de 70% du PIB et celle calculée par la Cour des comptes qui se situe à près de 100% du produit intérieur brut qui donne ce chiffre de 7 milliards de dollars, Nicolas.
Un montant gigantesque qui creuse aujourd'hui le déficit public du Sénégal.
Oui, et c'est aussi cette erreur, hein, ce manquement dans les déclarations qui a provoqué la suspension immédiate du prêt du Fonds monétaire international au Sénégal. Tout l'enjeu désormais pour les nouvelles autorités, c'est de savoir si ce prêt pourra reprendre. Oui, peut-être, dit le FMI, mais d'abord il faut que Dakar identifie quels mécanismes ont permis de dissimuler si longtemps la réalité de la dette et prendre des mesures correctives pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. C'est tout l'objet de la mission du Fonds monétaire international qui est à Dakar depuis une semaine et jusque demain. Ensuite, l'institution financière devra décider si elle accorde une dérogation au Sénégal ou si elle demande le remboursement de ce qui a déjà été prêté par le FMI. La décision sera prise à Washington, au siège début mai au plus tôt.
Léa Lisa Westerhoff, correspondante de RFI à Dakar. Le chef de la mission de FMI au Sénégal, Edouard Gemayel, était ce matin le grand invité Afrique de RFI. L'entretien est à réécouter sur le www.rfi.fr. Des experts indépendants de l'ONU demandent la libération immédiate et inconditionnelle de 3 militants politiques maliens afin qu'ils reçoivent des soins médicaux spécialisés. Il s'agit de Moulaye Baba Aïdara, de Mahamoud Mohamed Mangane et d'Amadou Togola, membre du Mouvement pour la paix au Mali et du SADI, parti politique d'opposition. Ils ont été enlevés en mai et juin 2023, il y a presque 2 ans, puis détenus et torturés par la sécurité d'État. Leur dossier a fini par être transmis à la justice. Et les experts mandatés par l'ONU, David Baché, se disent alarmés par leur sort.
Aïdara, Mangane et Togola ont droit à des soins médicaux urgents et le Mali a l'obligation, en vertu du droit international, de faciliter l'exercice de ce droit, estime l'équipe dirigée par l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, qui rappelle les actes de torture subis dans les geôles secrètes de la sécurité d'État, flagellation, scarification physique, électrocution des testicules pour l'un d'entre eux, qui qui ont causé de graves souffrances physiques et mentales. En octobre, la Cour africaine des droits de l'homme demandait au Mali de libérer les trois hommes pour qu'ils bénéficient de soins spécialisés. Deux jours plus tard, le juge d'instruction malien en charge de l'affaire ordonnait lui-même leur libération, cette fois pour un vice de procédure.
C'était il y a 6 mois, mais les 3 militants politiques sont toujours en prison.
Et les experts onusiens demandent donc aux autorités maliennes de se conformer à l'ordonnance de la Cour africaine. Ils demandent également l'examen rapide de leurs dossiers qui semblent avoir été déposés contre eux en représailles à l'exercice de leur liberté d'expression, écrivent les experts. Poursuivis notamment pour complot contre la sécurité de l'État et atteinte à l'unité nationale et au crédit de l'État, les 3 membres du mouvement pour la paix au Mali avaient dénoncé lors d'une conférence de presse plusieurs cas d'exactions attribuées à l'armée malienne contre des civils.
La crise dans l'est du Congo, réunie hier en sommet virtuel, les chefs d'État de la SADC, la région Afrique australe, et ceux de l'Afrique de l'Est ont décidé d'élargir le cadre de la médiation. Ils annoncent que 3 nouvelles personnalités rejoignent les anciens présidents Olusegun Obasanjo et Uhuru Kenyatta pour former un panel de 5 facilitateurs. Patient Ligodi, pourquoi ce changement ?
D'abord, une question de confiance. Les noms d'Haïlé Mariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien, figurait sur la première liste, mais il a été écarté. La délégation congolaise avait exprimé des réserves, jugeant l'ancien dirigeant un peu trop proche de Kigali. Il est remplacé par Saïlé Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, et deuxième ajustement, l'équilibre régional. L'Afrique australe est désormais incarnée dans le panel par Kalima Motlanthe, ancien président de l'Afrique du Sud, et l'Afrique centrale entre également dans le jeu avec Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Avec ces nominations, plusieurs critiques adressées au précédent format sont aussi levées. D'abord, la représentation féminine totalement absente dans la première configuration. Il y a désormais 2 femmes sur 5. Ensuite, la diversité linguistique avec Catherine Samba-Panza et Sele Work Zede. La voix francophone fait son entrée dans un dispositif jusque-là largement dominé par l'anglais.
Alors, quel est le programme de cette nouvelle équipe ?
Le panel doit immédiatement se mettre au travail avec pour mandat de mettre en œuvre une feuille de route détaillée validée par les chefs d'État de la région. Selon cette feuille de route, plusieurs actions sont attendues dans les 30 prochains jours. Déjà un engagement politique clair des différentes parties politiques pour relancer un dialogue direct. Ensuite, un engagement militaire pour éviter toute nouvelle escalade de violence et concrètement la mise en place d'un mécanisme de vérification indépendant pour suivre le respect ou non du cessez-le-feu. Cette feuille de route ainsi adoptées, ainsi que toutes les résolutions du sommet d'hier, seront transmises au Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, les 2 présidents en exercice de la SADC et de l'EAC, Emmerson Mnangagwa et William Ruto, vont convoquer une réunion d'information avec les 5 facilitateurs dans les 7 prochains jours pour lancer officiellement cette nouvelle séquence diplomatique.
À Kinshasa, les consultations nationales initiées par Félix Tshisekedi sont boycottées par la majorité des partis d'opposition. Perte de temps, une initiative qui ne serait ni la voie, ni la solution. Du parti de Moïse Katumbi à la coalition La Mouquette de Martin Fayoulou, les critiques fusent de toutes parts. Critique aussi de Seth Kikuni, fondateur du parti Piste pour l'émergence, récemment sorti de prison. Lui est davantage séduit par le processus engagé par les églises catholiques et protestantes.
La réponse de la classe politique, surtout celle de l'opposition, est claire. Nous rejetons les consultations annoncées par M. Tshisekedi et nous, en tant que cadre de concertation de forces politiques et sociales, nous déclinons cette invitation. L'approche des pères spirituels est en adéquation avec les attentes des Congolais qui aspirent à des solutions beaucoup plus durables et inclusives. Les pères spirituels ont rencontré presque tout le monde, y compris les membres de l'AFC M23. Ils ont fait le tour du monde, ils ont rencontré presque tous les chefs d'État de la région, ils ont échangé avec l'ensemble de la classe politique congolaise. Nous sommes convaincus que c'est leur approche, l'initiative de pères spirituels réunis au sein de l'ECC5O, qui représente la voie médiane, prometteuse, susceptible de contribuer à la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté.
Cette Kikuni au micro de Weli Diallo. Au Soudan, le bombardement d'un marché par l'armée nationale aurait fait hier 100 de morts. C'est ce qu'affirme Emergency Lawyers, un collectif d'avocats qui documente les exactions du conflit qui oppose depuis 2 ans l'armée et les milices FSR du général Emeti. Selon cette organisation, le bombardement a visé le marché de Tora, dans la grande banlieue d'El Fachr, au Darfour Nord. Gaëlle Lalex.
Un massacre horrible. C'est en ces termes qu'Emergency Lawyers décrit les événements d'hier à Tora. Selon le collectif, les avions de l'armée soudanaise ont bombardé sans discrimination le marché. Sur X, l'organisation de la société civile Darfour Victims Support a publié une courte vidéo ce matin des décombres de Tora. Des corps carbonisés jonchent le sol au milieu des cendres. Le marché de Tora est considéré comme le plus grand point d'approvisionnement des civils qui viennent y acheter leurs biens de première nécessité, explique l'organisation. Elle dénombre pour l'heure plusieurs dizaines de victimes et promet de mener une enquête. Depuis le début du siège d'El Fachr, il y a plusieurs mois, les populations civiles environnantes sont régulièrement victimes de bombardements de la part des deux belligérants. Selon le laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale, entre les 12 et 15 mars, le camp de déplacés d'Abu Shouk, au nord-ouest d'El Fachr, a essuyé des tirs de mortier de la part des forces de soutien rapide. En décembre, l'armée soudanaise avait bombardé un autre marché, celui de Cap Kabiya, à l'ouest d'El Fachr, tuant déjà une centaine de personnes. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Au Tchad, le journaliste Olivier Monodji a été entendu hier matin par un juge d'instruction à N'Djamena, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays. Olivier, qui est également l'un des correspondants de RFI au Tchad, a été arrêté le 5 mars et inculpé pour intelligence avec une puissance étrangère pour ses écrits dans son journal. Hier, l'audition d'une heure et demie a porté sur le dossier transmis par le parquet. Maître Alain Ndiliam, l'un des avocats d'Olivier Monodji, en est ressorti confiant.
Nous, à la fin de cette audition, nous sommes rassurés, une fois de plus encore de son innocence, que nous avons déjà cru dès le départ. Et nous sommes aussi rassurés par rapport au dossier qu'on a vu et par rapport à ce qu'on lui a reproché. Nous sommes également rassurés de l'attitude du juge d'instruction qui nous a véritablement prouvé qu'il est en train d'instruire à charge et à décharge. Et nous sommes confiants qu'il dira le droit et nous sommes confiants que le droit serait du côté de Monodji Olivier.
Des propos recueillis par Lisa Fabian.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les enquêtes se poursuivent au Cameroun après le démantèlement la semaine dernière d'un réseau de traite des êtres humains. Et puis les sports du football, les éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique, 15 matchs à l'affiche aujourd'hui. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mardi, en Centrafrique, la Cour pénale spéciale annonce l'arrestation de Mohamed Ali Fadoul, l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui régnait dans le quartier populaire du PK5 de Bangui entre 2013 et 2015, au plus fort de la crise militaro-politique. Il est accusé d'avoir participé à l'attaque en mai 2014 de l'église catholique Notre-Dame de Fatima dans le 6e arrondissement de Bangui. L'attaque avait coûté la vie à au moins 15 personnes en pleine messe. Près d'une quarantaine de personnes avaient également été kidnappées et portées disparues. Et puis en Côte d'Ivoire, la conférence des évêques lance un appel pour que la présidentielle du 25 octobre soit juste, transparente, inclusive et apaisée. Malgré les efforts fournis par le gouvernement, dit la conférence des évêques, certains chantiers demeurent comme des symphonies inachevées. Au Cameroun, l'enquête se poursuit pour retrouver d'autres membres d'un réseau de trafic d'êtres humains démantelé la semaine dernière dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Deux personnes déjà ont été arrêtées. Les trafiquants séquestrés, 13 étrangers depuis 5 mois au quartier Nkomo. Richard Onanena, des victimes originaires de Madagascar et de RDC.
Elles ont été appâtées sur les réseaux sociaux par des Camerounais leur promettant un emploi bien rémunéré à Yaoundé. Sur place, les 13 victimes ont été séquestrées et maltraitées pendant 5 mois à l'insu du voisinage. J'en souviens au Kala, chef du quartier.
Ils sont venus comme des simples locataires. C'est deux personnes qui se sont présentées comme des locataires. Et c'est une personne qui faisait des courses. On n'a pas beaucoup prêté attention à ça. Ce que j'ai vu la nuit, j'étais vraiment très surpris.
Une opération de la gendarmerie camerounaise au 19 mars a permis de libérer les victimes, 7 malgaches et 6 congolais de la RDC. Deux trafiquants ont été arrêtés. Le lieutenant-colonel Georges Parfait Nana, chef du commandement opérationnel de la gendarmerie nationale.
Ils subissaient de mauvais traitements. On leur demandait par exemple d'appeler leur famille pour qu'elles envoient de l'argent. Les filles auraient été probablement soumises à l'exploitation sexuelle.
Alors que les victimes restent sous observation, l'enquête se poursuit pour retrouver d'autres suspects impliqués. Dans un communiqué publié lundi, le ministère malgache des Affaires étrangères appelle à la vigilance face aux emplois à l'étranger après plusieurs cas de malgaches piégés au Cameroun par ce réseau de trafic des êtres humains. Richard Odanina, Yaoundé, RFI.
Les sports du football avec une grosse journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Pas moins de 15 matchs de la sixième journée sont à l'affiche, Eric Mamrut.
30 sélections du continent seront sur le pont avec l'espoir d'entamer du bon pied la phase retour de ces éliminatoires, à commencer par le Cameroun hôte de la Libye ce soir à Yaoundé, qui se doit de rattraper son décevant résultat nul face au dernier du groupe D mercredi dernier, Eswatini. Un mauvais résultat apparemment causé, du moins notamment, par la guerre que se livre actuellement le ministère des Sports camerounais, la FECAFOOT. En tout cas, le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, a pris la parole hier devant toute son équipe pour demander solennellement aux deux parties de fumer le calumet de la paix. Les précisions de Joël Wadem.
Depuis la nomination il y a un an d'Omar Brice à la tête des Lions Indomptables par le ministre des Sports sans l'avis de la fédération, c'est la guerre entre Narcisse Mouelekombi et Samuel Eto'o. Pour nuit aux Belges, le président de la FECAFOOT a décidé de priver son assistant de banc de touche. Pour le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers, cette situation, qui a des répercussions sur les résultats du Cameroun, est devenue intenable.
Face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, est un maillon indispensable de la chaîne.
Les Lions Indomptables appellent donc Samuel Eto'o et Narcisse Mouelekombi à la paix pour le bien du football camerounais.
Nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, de privilégier le dialogue. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes.
Cette prise d'opposition inédite sera-t-elle suivie? On le saura ce soir lors du match Cameroun-Libye. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Le Cameroun, deuxième au classement, une longueur du Cap-Vert qui, de son côté, jouera en Angola.
Dans le groupe B, trois équipes se battent pour le ticket directement qualificatif pour le Mondial.
Et la bataille fait rage entre le Soudan leader, la RDC et le Sénégal, trois équipes qui se tiennent en deux petits points. Les Soudanais partiront favoris face au Soudan du Sud, ce qui oblige Congolais et Sénégalais à gagner. De leur côté, les Lions reçoivent le Togo à Dakar, tandis que les Léopards s'en vont défier l'avant-dernier Mauritanien, avec l'espoir d'être plus tranchant que lors de leur chiche victoire de vendredi face aux Soudanais du Sud. Écoutez le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien De Sabre, au micro de Gamasson.
C'est différent de celui d'il y a quelques jours chez nous. C'est à l'extérieur. On doit être capable de gérer tous les événements qui peuvent se présenter devant nous en toute humilité, avec beaucoup de concentration. On espère que demain, ça sera du beau spectacle contre une bonne équipe, parce que la Mauritanie est en pleine progression.
Et outre Mauritanie et RDC, on suivra attentivement le duel des deux premiers du groupe C, le Bénin et l'Afrique du Sud, ou encore, Nicolas, le déplacement de la Guinée en Ouganda.
Premier résultat des Afriques Soir, 18h30, temps universel. Pour l'heure, 13h48 à Paris, Clotilde Dumay, les grands titres de ce mardi 25 mars.
Le Kremlin réclame un accord sur la mer Noire pour lever les restrictions sur les exports agricoles russes. C'est la seule annonce faite pour l'instant après la rencontre en Arabie Saoudite entre des représentants de Moscou et de Washington. Les Russes demandent aussi aux Américains de donner un ordre à l'Ukraine pour trouver un accord sur la sécurité de la navigation commerciale dans cette zone. Pendant ce temps, les Américains ont poursuivi les pourparlers avec un nouvel échange avec des représentants ukrainiens, toujours pour évoquer une éventuelle trêve dans la guerre avec Moscou. Les autorités turques parlent de provocateurs, des manifestants toujours dans la rue pour protester contre l'incarcération de l'opposant Ekrem İmamoğlu. L'interdiction des rassemblements dans la capitale Ankara est prolongée jusqu'au 1er avril. Près de 1200 personnes ont été interpellées en moins d'une semaine de mobilisation. Et puis au moins 5 personnes tuées en Syrie par un tir de char israélien lors d'une incursion dans le sud du pays. L'armée israélienne a dit avoir riposté à des tirs de terroristes, selon les mots employés dans un communiqué. L'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme. Le monde pourrait revivre les pires heures de la pandémie de SIDA sans reprise du soutien financier des États-Unis à l'aide internationale. Fodessi Maga, directeur des programmes à l'ONU-SIDA, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour, docteur Fodessi Maga.
Bonjour.
L'Afrique a été le continent le plus impacté par l'épidémie de sida. Ça allait mieux. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un retournement de tendance?
Un retournement de tendance, oui, est toujours possible, même avant la situation liée aux décisions récentes de la nouvelle administration des États-Unis. on a fait des progrès, en particulier en Afrique, mais on n'a pas de place pour aucune complaisance, quoi, si vous voulez. On n'y est pas encore. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, en Afrique, il y a 3000 nouvelles infections par semaine chez les adolescentes et les jeunes femmes. Vous voyez, donc, il y a que 9 pays, dont 4 en Afrique, qui ont atteint les objectifs qu'on s'était assignés tous collectivement en 2025, c'est-à-dire avoir 90% des personnes vivant avec le VIH d'un pays qui connaissent leur statut, qui sont sous traitement et un traitement efficace parce que leur charge virale est indétectable. Donc, il y a des progrès, mais il n'y a pas de place à la complaisance et les nouvelles décisions et la nouvelle situation mondiale peut effectivement nous faire craindre un retournement de situation.
Quel impact les coupes budgétaires américaines ont-elles déjà à l'heure actuelle sur la lutte contre le sida?
Je dirais que bon, elles sont multiples, mais on va dire que actuellement, il y a d'abord eu un effet de sidération qui fait qu'il y a eu un impact sur la disponibilité de traitements. Il y a eu des personnels des services de santé qui se sont retrouvés, on va dire, non payés, donc on pouvait pas avoir accédé. Mais ça a duré très très peu parce que l'administration a sauté ce qu'on appelle une exception pour qu'il y ait une continuité de traitement qui soit garanti. Donc c'est réparé, mais ça a mis un peu de temps, vous voyez, ça a désorganisé les programmes, donc il y a eu un petit impact chiffré encore sur le nombre de personnes qui n'ont plus accès au traitement. Par contre, il y a un impact considérable sur les organisations de la société civile et les services que ces sociétés civiles délivrent à ses pairs, à ses mandants. Eux se retrouvent vraiment sans plus aucun financement et aussi considérablement sur tout ce qui est prévention en général, pour les populations clés en particulier.
C'est-à-dire que ce sont les programmes de dépistage et de prévention qui sont directement impactés à l'heure actuelle, malgré les dérogations annoncées par l'administration Trump.
Oui, effectivement, c'est les domaines qui sont les plus touchés, à l'exception de la prévention chez les femmes enceintes, où là, quand même, le programme d'exception permet d'imprimer la prévention chez cette catégorie de population.
Alors, pour l'instant, l'aide internationale américaine n'est que suspendue. Mais si elle ne reprend pas, vous vous attendez à des conséquences dramatiques?
Nous avons fait des projections et des modélisations qui, par exemple, nous disent que si elle ne reprend pas, on aurait 6,3 millions de morts par le sida. En plus, au lieu au sida, entre 2025 et 2029, nous aurions 8,7 millions de nouvelles infections chez les adultes. Nous aurions 350 000 nouvelles infections chez les enfants. Donc vous voyez, c'est quand même assez catastrophique, un retour en arrière considérable. Cependant, je pense qu'on peut dire que le financement des États-Unis reviendra. On est en tout cas optimiste, mais sans doute dans des nouvelles conditions, des nouvelles façons de délivrer leurs programmes, leur financement, ça c'est sûr, mais avec l'évolution actuelle, on pense que les Américains reviendront dans la réponse au VIH-SIDA.
La directrice de l'ONU-SIDA a appelé hier le président Trump à un deal sur la prévention de la maladie dont pourrait profiter une entreprise américaine, le laboratoire Gilead, qui a créé un médicament qui peut prévenir 100% des infections pour les gens qui ne sont pas touchés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
En fait, c'est le laboratoire Gilead qui a sorti une nouvelle molécule qui s'appelle le lenacapavir, qui est donnée sous la forme d'une injection tous les 6 mois, donc 2 injections par an. Donc c'est un progrès considérable pour les populations qui sont les plus éloignées, les plus marginalisées, les plus stigmatisées, qui s'auto-stigmatisent. Et effectivement, toutes les études ont prouvé qu'il y avait 100% de réponse positive, c'est-à-dire d'efficacité de cette molécule-là. Et c'est vraiment une révolution dans la réponse au VIH-SIDA, à condition que cette molécule soit disponible pour les plus démunis, les plus vulnérables, donc dans les pays qui sont les plus vulnérables. Et ça, c'est pas encore gagné.
Si les États-Unis ne devaient pas poursuivre leur financement de la lutte contre le SIDA, quel mode de financement alternatif préconisez-vous?
De toute façon, même si le financement américain revient, c'est un plus grand financement par les pays eux-mêmes pour leurs citoyens, c'est-à-dire les financements domestiques. Ça, c'est l'avenir et c'est une condition essentielle pour la réponse et pour le VIH-SIDA en tant que problème de santé publique, parce que à long terme, il faut absolument que les pays arrivent à pérenniser les programmes, qui par exemple payer les traitements pour les citoyens qui sont infectés. Donc de toute façon, ce mouvement a commencé, les pays investissent énormément. Cette crise, si je puis l'appeler ainsi, a remis la problématique du VIH-SIDA sur l'agenda politique de tous les pays et surtout des pays les plus affectés. Et vous avez des investissements massifs. Par exemple, l'Afrique du Sud vient d'annoncer qu'elle allait financer 1,1 million supplémentaires de personnes vivant avec le VIH sous ARV, qui est financé par le gouvernement sud-africain, par exemple. Mais c'est valable dans beaucoup d'autres pays, au Kenya, au Malawi, au Zimbabwe. Donc, il y a vraiment un réveil. Donc, ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est que malgré tout, on sait que la coopération internationale et le financement international sera nécessaire, continuera nécessaire, particulièrement pour le lenacapavir, par exemple, le lenacapavir. Et donc là, nous pensons que l'Union européenne, les Européens, doivent faire un effort, pourraient faire un effort supplémentaire si d'aventure on se retrouvait dans le cas de figure que vous évoquez.
Merci Fodé Simaga, merci beaucoup. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et on part à présent dans le Haut-Ogooué, dans l'est du Gabon, où l'industrie de manganèse continue à se développer. Ce minerai est utilisé dans les alliages d'acier. Plusieurs gisements sont exploités dans la région, mais les principaux à Moanda sont ceux de la Comilog, la filiale d'Eramet, numéro 1 mondial du secteur. La Comilog a produit quasiment 7,5 millions de tonnes en 2023. L'entreprise qui a fini par mettre en place des politiques sociales et environnementales, en particulier pour la sauvegarde des ressources en eau. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, François Mazet.
L'équipe de l'après-midi entame son cycle et les pelleteuses se mettent en action. Nous surplombons la mine à ciel ouvert d'Oguma avec Brice Mabika, chef de département exploitation minière de la Comilog. Ici, le manganèse est facile d'accès à environ 6 mètres sous la surface du sol.
On va passer d'abord la couche de pisolite. On va tomber sur le toit du minerai. Après le toit du minerai, on va aller sur la roche-mère ou sur les argiles. Ce qui nous intéresse ici, c'est la couche du milieu. Pour arriver à la couche du milieu, il faut d'abord décaisser toute la partie supérieure. Oui. Dès qu'on a fini de faire ça, on va passer à la phase d'exploitation, récupérer la tranche minéralisée chargée dans les camions et ramener ça vers le client qui est la laverie.
À la laverie, le minerai sera nettoyé et séparé en trois types. Kéline Ganjoka est responsable de ce processus.
Donc, lorsque le minerai vient de la carrière, une fois qu'il est extrait en carrière, il passe par la partie concassage. Donc on a un extracteur, un tablier métallique qui met sur le convoyeur. Première étape de débourbage. Et après, on fait la classification.
Le manganèse propre part pour la gare via des tapis roulants longs de plus de 3 km. L'eau boueuse du lavage vers un décanteur mis en service en juin 2023 et qui permet un recyclage efficace, selon Kéline Ganjoka.
On boucle l'année 2024 avec une cible initialement prévue à 85%. On finit à 92% de taux de recyclage ici. Donc, on a fait nettement mieux. Et là, on vise les 95% afin de garantir toujours l'autonomie de l'usine en eau et prendre de moins en moins d'eau en milieu naturel.
Le reste remplit des bassins d'évaporation sur lesquels on plantera des arbres. Originaire de Moanda, le député de la transition Jean-Valentin Leyama est souvent en conflit avec la Comilog, mais il reconnaît les progrès effectués.
À la suite d'un certain nombre de combats qui ont été menés au milieu des années 2000, Comilog a fait beaucoup d'efforts. Les déchets du minerai ne sont plus rejetés dans la nature. Des protocoles ont été mis en place, mais compte tenu de la nature du minerai, il y a toujours une pollution résiduelle sur laquelle il faudra certainement mettre en place un observatoire qui examine l'impact sur les populations de façon périodique.
Jean-Valentin Leyama pointe aussi les limites à la politique sociale de l'entreprise. Autre difficulté pour la Comilog, l'acier et le manganèse dépendent de l'état de la croissance mondiale. Fin 2024, la production a été suspendue pendant 3 semaines en raison d'un coup de mou sur le marché chinois. François Mazet de retour de Moanda, RFI.
Et c'est à Moanda que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Thomas Yayani. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Dans 2 minutes, selon votre zone d'écoute, deuxième demi-heure, dernière demi-heure de RFI midi consacrée à l'actualité américaine.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale. Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
Comment enrayer la hausse alarmante de la malnutrition infantile dans le monde?
Jeudi.
Quelle attitude adopter face à un interlocuteur agressif? Ça s'apprend.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Zar électrique.
Rima. RFI musique.